بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاه الإسلام Nous remercions Allah Rabbul Izzah qui nous donne la possibilité de nous asseoir après la Salat al-Isha avec cet ikhlas, la sincérité, de pouvoir écouter quelques paroles qui nous permettront, incha'Allah, de mieux connaître notre Rabb, notre Seigneur. L'objectif exclusif de ces durous concernant les noms d'Allah Azza wa Jal est de permettre à chaque personne qui l'écoute, soit directement, soit par les liens audio, chaque personne qui a de son cœur ce talab, cette envie de connaître Allah Azza wa Jal, mais incha'Allah, par le biais des ayat du Coran et par le biais des versets qui donnent des explications très claires concernant chaque qualité, chaque nom d'Allah Azza wa Jal, mais incha'Allah, c'est notre objectif, c'est de connaître Allah Azza wa Jal et de faire en sorte que dans notre cœur, nous trouvons réellement l'amour d'Allah Rabbul Izzah. Beaucoup de savants, on avait déjà expliqué ça dans le passé, beaucoup de savants sont de cet avis que le grand manque qu'il y a dans le cœur des croyants de notre époque, c'est l'absence d'amour pour Allah Azza wa Jal. Alors que les actes d'adoration sont les mêmes. Nous prions autant que les sahaba, nous jeûnons autant que nous prions, c'est-à-dire les namaz, les prières qui sont faraz, nous lisons le même Coran, nous faisons les mêmes adhkar, mais la qualité de ces a'mal est différente. Parce que les cœurs ne sont pas habités de la même façon par la crainte d'Allah et par l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et le fait de connaître qui est Allah Rabbul Izza en étudiant les asma wa sifat, ses noms et ses attributs, ça nous permettra de faire naître en nous, incha'Allah, l'amour d'Allah Azza wa Jal. On avait commencé avant les vacances, au mois de décembre, donc on avait commencé, bien avant le mois de novembre avec l'introduction. Ensuite, on avait expliqué la qualité, hein, une des qualités qui revient le plus dans le Coran, cette qualité d'Allah Azza wa Jal que nous citons beaucoup de fois, des dizaines de fois par jour, à travers chaque Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, à travers chaque ar-Rahman ar-Rahim de l'Al-Fatiha, c'est les qualités d'Allah Azza wa Jal en rapport avec sa clémence et sa miséricorde. Vous l'avez expliqué qu'il y a une clémence d'Allah Azza wa Jal pour l'ensemble de sa création. Ins wa jinn, ceux qui ont la foi, ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui adorent Allah Rabbul Izza uniquement, ceux qui n'adorent pas Allah, ceux qui n'adorent rien du tout. Même ceux qui se déclarent être les ennemis d'Allah Azza wa Jal, pour eux aussi Allah Azza wa Jal a une clémence. Ensuite, on avait vu qu'il y a la bonté, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour les croyants. Et on avait conclu, si je ne me trompe pas, le premier cours sur Rahman Rahim, avec le hadith dans lequel le prophète alayhi salat wa salam nous rappelle qu'Allah Azza wa Jal a 100 rahmas. Allah Azza wa Jal a 100 bénédictions. Et une seule de ces rahmas a été envoyée pour l'ensemble de la création dans le monde du dunya. Et par cela, il y a l'amour entre les gens. Et par cela même, les animaux ont de la pitié entre eux, entre autres pour les petits. Il ne les massacre pas, et ainsi de suite. Ça m'a expliqué. Et 99 rahmas, on le retrouvera, les croyants le retrouveront, incha'Allah, le jour de Qiyam. Et on avait également cité en exemple deux cas de figure où le prophète, alayhi salatu wassalam, voyait des bébés. Et le hadith hein, qui était le plus marquant, c'est lorsque le prophète avait dit aux sahaba, en voyant une femme qui était en train de... Elle cachait son enfant sous ses vêtements pour l'allaiter. Elle dit aux sahaba, pensez-vous une seconde que cette femme peut prendre ce bébé et le jeter dans le feu alors qu'elle a la capacité, la possibilité de le faire. Ça veut dire quoi alors qu'elle a la possibilité de le faire? C'est que le feu est présent. Donc, elle a la possibilité de prendre l'enfant et de le jeter. C'est dans ses compétences, dans son, entre guillemets, son pouvoir. Mais pensez-vous une seconde qu'elle va prendre cette décision? Ça ne dit jamais au prophète d'Allah, parce que cette mère aime son bébé plus que tout le monde. Et on avait dit que l'amour d'une maman pour son bébé, ça symbole, c'est symbolique de l'amour
avec un grand A. C'est symbolique de la rahma, de la pitié, de la clémence, de l'attachement qu'une créature peut avoir pour une autre. C'est vraiment le summum, le paroxysme de la muhabba et de la bonté qu'Allah a mis dans les cœurs. Le prophète dit, sachez qu'Allah Azza wa Jal vous aime plus que cette maman aime son bébé. Donc avec ça, on avait compris la clémence d'Allah pour l'ensemble de ses créatures. On avait, si je ne me trompe pas, cité quelques versets, mais il n'y a pas de problème. Avec le temps, on va essayer de... On reprend rapidement ce qui a été vu en date du 15, du 25 décembre. Donc, c'était le dernier cours. On a vu également que parmi la manifestation, on parlait de la manifestation de la clémence d'Allah Azza wa Jal, au début de la création, ce qu'on appelle Bad'ul Khalq, au début de la création, lorsqu'Allah Azza wa Jal s'est établi sur son trône, Kama yaliqu bihi Azza wa Jal, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, le sifa, le nom d'Allah qui est cité dans ce verset qui marque le début de la création, c'est Ar-Rahman, le très clément. Les savants disent qu'on comprenne que depuis le début de la création, Allah Azza wa Jal s'affirme comme étant le très clément, afin que l'ensemble de la création réalise que tout va commencer à partir de sa bonté et de sa miséricorde. On avait vu également le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit que lorsqu'Allah azza wa jal a tout décrété concernant la création, Allah azza wa jal a écrit dans un livret qui est fahuwa indahu fawqa al-arshi, qui est au-dessus de son trône. Quelle est cette phrase qui est écrite? Inna rahmati ghalabat ghadabi, que ma clémence dépasse ma colère, pour que l'ensemble de la création réalise que on se prosterne devant un Seigneur qui est clément. Parce que quand on prie, quand on fait le sejda, la prosternation, intérieurement, on doit essayer de se projeter vers une situation où on est devant Allah Azza wa Jal. Et Allah qui établit sur son arche, comme cela sied à Allah Azza wa Jal. Et sur le arche d'Allah Azza wa Jal, c'est écrit depuis le début de la création que sa bonté, sa clémence dépasse sa colère. Pour qu'on garde à l'esprit qu'on adore un Seigneur, un Dieu qui est bon, gentil, miséricordieux et clément. Troisième point qu'on avait vu concernant la manifestation de la clémence d'Allah Azza wa Jal pour l'ensemble de ses créatures, le fait qu'Allah Rabbul Izza nous ait envoyé le meilleur des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la meilleure des sharia, le meilleur des livres qui a été protégé par Allah Azza wa Jal jusqu'au Qiyam. Et puis on avait vu d'autres exemples de la clémence d'Allah concernant l'organisation des cieux et de la terre. On va dire que ça, on n'a pas besoin de les répéter. Le verset également qu'on avait vu de la sourate Zukhruf, wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un, et en ce sens que la clémence d'Allah est mieux que tout ce qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire que autant l'homme, autant les êtres humains peuvent se réunir pour être profitables, pour apporter du bien, pour apporter de l'amour pour leur prochain, mais la clémence d'Allah dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Comme on pourrait dire que une personne qui, subhanallah, qui accomplit toute la création se réunissaient pour invoquer et demander à Allah Rabbul Izzah tout ce qu'ils peuvent imaginer et qu'Allah leur accordait tout ce qu'ils demandaient, cela ne diminuerait en rien le trésor d'Allah, tout comme une personne trempe dans certaines versions son doigt, dans d'autres versions une aiguille dans un fleuve ou un océan, et on retient, est-ce que cela a diminué le niveau de l'eau? Bien sûr que non. C'est selon les métaphores que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam utilise pour nous faire comprendre que c'est dérisoire. Autant on peut demander, Allah nous donne, mais ça ne diminue en rien la clémence d'Allah, la richesse d'Allah Azza wa Jal. De même, autant on peut essayer d'être bon, de manifester de l'amour pour notre prochain, cela reste incomparable par rapport à la clémence d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, le point qu'on avait, je pense qu'on s'était arrêté à là, avant les vacances, أن الله لا يؤاخذنا بالغفلة كالله رب العزة. Parmi les manifestations de sa clémence, Allah ne punit pas ses serviteurs par rapport à l'insouciance, par rapport au rafla, les moments où on oublie de penser à Allah Azza wa Jal. L'insouciance également lorsque soit on oublie, soit on néglige de remercier Allah Azza wa Jal pour les bienfaits qu'il nous a accordés. Vous connaissez le verset وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si une personne essayait de dénumérer, de compter combien de clémence, combien de bienfaits Allah nous a accordé, aucun homme ne pourrait le faire. Mais le fait que, il y a des fois où on est reconnaissant, alhamdulillah, il y a des fois où on n'est pas reconnaissant. De quelle façon on n'est pas reconnaissant? Quand on oublie de remercier Allah Azza wa Jal, ou alors qu'on fait des péché. Parce que la reconnaissance, ça se manifeste par les adhkar, alhamdulillah, remercie Allah, avec les paroles, ou alors, également, la reconnaissance se manifeste par les bonnes actions. Parce que ash-shukr, c'est bil-lisan wa bil-jawarih. Quand j'accomplis de bonnes actions, d'une certaine façon, je suis reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Alors que si je me réveille de le péché, et je me couche de le péché, de le haram, est-ce que j'ai été reconnaissant envers Allah pour la santé? Quand je me lève le matin, mashallah, je mets deux pieds, je peux aller travailler, je n'ai pas besoin d'une chaise roulante, j'ai pas besoin d'assistance médicale, et ainsi de suite. Là, on parle juste du ni'ma de la santé, j'ai la foi, j'ai iman. Il a le fait d'avoir une famille, le fait, tous ces bienfaits-là, mais si je passe mon temps dans l'insouciance ou dans les péchés, assurément, je n'ai pas été reconnaissant. Mais malgré cette ingratitude qui est active ou passive, Allah Azza wa Jalla ne reprend pas les bienfaits. Parce que si Allah Rabbul Izzah reprenait les bienfaits parce qu'on ne l'a pas remercié, ben personne n'aurait plus le moins de bienfaits, le moins de ni'ma dans sa vie. Point suivant, c'est le sixième point. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. Allah est le suffisant à lui-même et détendeur de la miséricorde. Ça me dit quelque chose. Il me semble qu'on a fait ce tafsir. Dans ce verset, il y a en même temps l'explication du fait qu'Allah Azza wa Jal, il possède tout. Al-Ghani, Allah est riche. Et quand on parle d'une personne qui est riche et qu'Allah est riche, est-ce que c'est comparable? Abadan wallah. Et ça, c'est une règle à retenir concernant les sifats d'Allah Azza wa Jal, les qualités d'Allah Rabbul Izza, même s'il porte les mêmes noms que certaines qualités que l'homme s'attribue, il reste incomparable. Parce que les qualités d'Allah sont les qualités d'Allah. Les qualités des hommes sont les qualités des hommes. Donc quand Allah il est riche, Allah n'a besoin de personne. Si quelqu'un, une personne, même si c'est millionnaire, multimillionnaire, d'accord, il se casse une jambe vers l'hôpital, est-ce qu'il peut dire que moi je suis riche, je n'ai pas besoin de médecin, n'importe quoi. Il a besoin que d'autres personnes lui apportent de l'aide, et ainsi de suite, on a compris. Mais quand on dit qu'Allah est riche, Allah n'a besoin de personne. Allah n'a besoin d'aucune de ses créatures, malgré le fait qu'Allah soit autosuffisant. Allah Azza wa Jal fait preuve de clémence. Ça montre bien le paradoxe entre le fait qu'Allah n'a besoin de personne, mais qu'Allah nous accorde tout ce qu'on a besoin. Et les actes d'adoration qu'on accomplit pour Allah, Allah n'en a pas besoin. Le huitième point, le huitième verset qui nous montre la clémence d'Allah Azza wa Jal, lorsque de la sourate Al-Hijj, Allah Azza wa Jal dit « Nabbi ibadi » أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله رب العزة من النبي صلى الله عليه وسلم d'informer ses serviteurs qu'il est le pardonneur et le clément. Et pour annoncer son pardon et sa clémence, Allah Azza wa Jal utilise deux noms, Al-Ghafur et Al-Rahim. Et juste ensuite, Allah va annoncer que son châtiment, c'est le châtiment douloureux. Wa anna adhabi huwa al-adhab al-alim. Et en commentaire, les mufassirin rahimahoullah disent que c'est un peu plus technique, hein. Là, il faut bien décrypter le verset. Vous voyez, lorsqu'Allah annonce qu'il est clément, Allah va utiliser plusieurs mu'akkadat, plusieurs formes grammaticales pour montrer l'insistance. Le fait de dire anni, ça veut dire certes. Ana, il reprend le pronom personnel, c'est moi, je. Et ensuite, il y a deux noms, al-Ghafur et al-Rahim. Alors que pour annoncer le châtiment, Allah n'utilise pas un nom. Allah n'a pas dit wa anna al-mu'adhib. Allah n'a pas dit je suis celui qui châtie. Non. Allah n'a pas utilisé non plus inni ana. Certes, c'est moi qui suis celui qui châtie. Du tout. Allah pour les châtiments a juste dit que mon châtiment est douloureux. Donc même dans cette annonce qui doit normalement interpeller chaque croyant et nous permettre de voir le juste milieu. Et de ne pas aller trop loin dans l'espoir. Personne qui se dit que je mène ma vie comme je le souhaite, je suis mes passions, mes pulsions, j'accomplis les péchés que j'ai envie de faire parce que j'ai envie de le faire, et Allah est grand. Allah va pardonner. Ce verset rappelle à l'ordre le serviteur, certes, Allah est clément, certes, Allah est pardonneur, mais attention, quand Allah châtie, quand Allah envoie son adab, sachez que son châtiment est douloureux. C'est une piqûre de rappel pour qu'on revienne vers le juste milieu entre l'espoir excessif et la crainte excessive d'Allah Azza wa Jal. Donc même dans ce verset, les termes qui parlent de la clémence sont plus forts que les termes qui parlent de son châtiment. Hada. Autre point, c'est le 9e point concernant la manifestation de la clémence d'Allah Azza wa Jal. Notre Seigneur est tellement clément qu'il ne châtie pas, il ne sévit pas immédiatement lorsque le péché est accompli. Imaginez, vous faites un péché, quelle que soit la nature du péché, on regarde quelque chose qu'on ne doit pas regarder, on écoute quelque chose qu'on ne doit pas écouter, on dit une parole qu'on ne doit pas dire et que le azab descend immédiatement du ciel. Est-ce qu'il restera encore quelqu'un debout ? Abadan. Comme on avait vu le verset, certainement on a dû le voir. Wala yu'akhidullahu an-nasa, si Allah devait punir chaque créature bima kasabu par rapport à ce qu'ils ont obtenu, ce qu'ils ont fait, ma taraka ala dhahriha min dabba. Il n'y aurait plus un être vivant sur la terre. Mais Allah Azza wa Jalla laisse ses serviteurs. Même si parmi ses serviteurs, il y en a qui le désobéissent du matin au soir, Allah Azza wa Jalla laisse ses serviteurs. Et dans un hadith, le prophète Ali salat wa sallam nous rappelle que lorsque le musulman accomplit une bonne action, Allah Azza wa Jalla demande aux anges d'inscrire 10 fois la récompense. Un exemple, je dis subhanallah, si je dis une fois subhanallah, j'ai 10 récompenses. Si avant de me coucher, je fais comme la sunnah de 33 fois, j'ai 330. Subhanallah. Maintenant, et dites subhanallah pour que vous ayez 10 fois subhanallah. Ça, c'est du concret. Maintenant, à la suite du hadith, en fait, le hadith commençait par l'intention. Lorsque le serviteur a l'intention de faire une bonne action, Allah Azza wa Jalla demande aux anges d'inscrire déjà la bonne action dans son livret de compte, avant même qu'on l'accomplisse. Et s'il l'accomplit, d'inscrire au moins 10 fois. Par contre, pour le péché, quand quelqu'un a l'intention de faire un péché, rien n'est inscrit dans le livret de compte. Et si la personne l'accomplit, le péché n'est pas inscrit tout de suite. Allah demande aux anges d'attendre un laps de temps. Peut-être que son serviteur finira par demander pardon. Et s'il a demandé pardon, le péché n'est pas inscrit. Voyez la bonté, la clémence d'Allah Azza wa Jalla. Et au cas où s'il n'a pas demandé pardon, le péché est inscrit une seule fois. Mais ce péché, il pourra partir avec grande facilité. Il suffit parfois de faire ses ablutions. Le tahara, pour faire le wudu, et d'autres actions de ce genre, subhanallah, Allah a mis à notre disposition quantité de hasanat, de a'mal salih, de bonnes actions, qui nous permettent de nous laver régulièrement de nos péchés. Tout ça, ça montre la clémence d'Allah Azza wa Jal, comment est-ce qu'Allah nous ouvre des portes. Autre point, la clémence d'Allah, subhanallah, ça c'est quelque chose sur lequel on a besoin de méditer. Je pense que dans notre vécu, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation familiale, nous avons tous connu des situations conflictuelles ou des situations d'épreuve. On a tous connu des difficultés, je ne sais pas le terme malheur, on a tous connu des difficultés, des épreuves, des situations complexes de notre vie. Les savants, rahimahumullah, à la lumière des différents hadiths, disent que chaque épreuve qui touche le musulman, c'est la clémence d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que lorsqu'Allah envoie une difficulté, ça peut concerner la famille, ça peut concerner notre situation financière, ça peut concerner notre santé, quelle que soit la nature de l'épreuve, et que le croyant se montre patient et il s'en remet à Allah, ben cette difficulté-là est un moyen qu'Allah a envoyé, une manifestation de la clémence à l'attention de l'homme pour effacer un peu de ses péchés, pour lui accorder des bonnes actions et pour augmenter son grade. Une fois le prophète alayhi salatu wassalam avait pris une branche, l'avait secouée et toutes les feuilles étaient tombées. Il a dit, oh mes sahaba, qu'est-ce que vous déduisez à travers cette action? Ça faisait partie de la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait une action, il demandait aux sahaba de comprendre et il donnait l'explication et ça marquait les esprits, ça touchait les cœurs. Il dit, oh mes sahaba, sachez que lorsqu'une personne est atteinte par la maladie, ben ses péchés tombent. Tout comme vous avez vu l'intégralité de ses feuilles tomber de cette branche. Alors que nous interprétons ces difficultés de différentes façons. Mais qu'on réalise que chaque difficulté, ça prouve qu'Allah nous aime. Dans un hadith, le prophète me dit, lorsqu'Allah aime une créature, Allah l'éprouve. Et notre conception du monde, notre conception du bien et du mal, acquis dans la société, je ne parle pas du côté islamique, ben on a besoin de le revoir complètement. On doit revoir l'échelle de valeur de notre conception des choses. Ce que nous considérons comme un malheur ou comme quelque chose de contraignant, ben qu'on doit réaliser que ça en fait c'est une preuve qu'Allah Azza wa Jalla nous aime parce qu'il nous a envoyé les preuves, parce qu'Allah a vu certainement des péchés dans notre livret de compte qui auraient pu être lourds en conséquence dans la tombe, ou le jour de Qiyam, ou le moment de peser des actions. Au moment de la pesée des actions, peut-être que ces péchés auraient été fatals, auraient fait pencher la balance du mauvais côté. Ben Allah Azza wa Jalla envoie une épreuve, une difficulté, afin que ces péchés soient effacés, enlevés du livret de compte. C'est pour ça que le prophète a dit Ajaban li amri al-mu'min, la situation du croyant elle est vraiment exceptionnelle, et cela est spécifique au mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khayr. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Lorsqu'Allah lui accorde un bienfait, il remercie Allah et c'est une source de récompense pour lui. Allah nous accorde quelque chose, remercie Allah, comme on a vu tout à l'heure. Allah lui envoie une difficulté, il fait preuve de patience, ce sera là également une source de récompense pour lui. Hadith de Muslim, pour nous faire réaliser qu'à partir du moment où le cœur est connecté avec Allah, ça c'est sharf. La condition est la suivante, que dans toutes les situations de notre vie, le cœur est relié à Allah. Quand le cœur est connecté avec Allah, vous obtenez quelque chose, vous n'allez jamais vous attribuer le bienfait. Vous n'allez jamais vous dire que j'ai mérité ou j'ai travaillé pour ça. Même si concrètement, d'une certaine façon, nous sommes les acteurs principaux pour ce bienfait, mais qu'on réalise que cela vient d'Allah et remercie Allah Azza wa Jal avant tout. Et quand on a une difficulté, le cœur doit être orienté vers Allah Azza wa Jal. C'est une épreuve qu'Allah a envoyée et Allah seul connaît la sagesse, la hikmah qu'il y a derrière cette épreuve. Également, les savants disent que le simple fait, et là je dis le simple fait, mais l'accomplissement des bonnes actions et le fait qu'Allah nous ait ouvert une porte, ajib, multitude de bonnes actions possibles pour cette Ummah, très certainement nous sommes dans la communauté où il y a un tel éventail de bonnes actions possibles que le mu'min peut accomplir. Mais chaque bonne action, c'est une porte qu'Allah ouvre pour nous qui nous permet de nous rapprocher de lui. Et à partir du moment où on accomplit une bonne action et qu'on réalise que ça, c'est une ni'ma, c'est un bienfait, c'est une clémence d'Allah Azza wa Jal de m'avoir donné la possibilité de faire, par exemple, la salat al-Isha en congrégation, ou d'assister à une assemblée, même si il fait un peu chaud. On a éteint les ventilateurs parce que les pages tournent et puis c'est agaçant. Ou quand on vient à la salat de Fajj qui est à 5h20, 25, Alhamdulillah, Allahumma rifna. Même quand on vient à la salat al-Fajj et on est un peu fatigué, on se dit, et quand on a complété, qu'on réalise que ça, c'est une clémence d'Allah. Allah m'a tiré, entre guillemets, de mon lit, m'a ramené à la masjid, c'est qu'Allah même, Allah m'a ouvert une porte qui me permet de me rapprocher de lui. Et le jour du Qiyama, je vais voir cette salat al-Isha accomplie le 9 février. Je vais voir cette salat al-Fajj accomplie le 10 février. Alors qu'on a oublié nous déjà. Si on demande à quelqu'un, est-ce que tu te souviens de ton Fajj que tu avais accompli le 1er mars 1982 ? On va dire, oh là, de quoi tu parles ? Mais les anges l'ont écrit. Et le jour de Qiyama de le livrer des comptes, on verra ce Salat Fajj, on verra ces A'mal du mois de Ramadan, on verra ces versets du Coran qu'on a parcouru. Chaque bonne action, c'est une porte de clémence qu'Allah nous ouvre. Quand on le fait, on est reconnaissant, on remercie Allah Azza wa Jal. Mais quand on a raté un Salat, qu'on a raté une prière, qu'on a raté la possibilité d'accomplir une bonne action, on doit réaliser que nous sommes nous-mêmes fermés cette porte de bonne action, alors que l'action, elle est légiférée. L'action, elle existe pour cette Ummah. On connaît exactement qu'est-ce qu'on peut faire. Mais si je ne l'ai pas fait, c'est que je me suis moi-même fermé cette porte, et là, on doit vraiment regretter. Rater une prière de Fajj, ça doit être plus lourd que de payer un billet de 500 euros. Dernièrement, j'avais un billet de 500, de couleur mauve. Je devais aller payer quelque chose. Je ne l'ai pas payé à Dieu, alhamdoulilah. Mais je m'imagine, c'est un morceau de papier. Un morceau de papier. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu cette couleur. Mais quand on la voit, c'est pas mal aussi. Astaghfirullah, tout voulez. Un morceau de papier. Je me dis que si j'attrape ça, il suffit que quelqu'un me le prend. Il suffit que ça tombe dans le caniveau. Il suffit qu'il y ait un coup de vent et ça part. Et c'est l'équivalent de je ne sais pas combien de jours de travail et ainsi de suite. Dit que le dunya, ça se tient à quoi? Un morceau de papier, subhanallah. Si je le perds, comment est-ce que je serai triste? Je ne l'ai pas perdu, hein, je vous rassure. Si quelqu'un le perd, comment est-ce qu'il serait triste? Il serait... Imaginez un commerçant qui ferme sa boutique, il a sa liasse de billets, je ne sais pas qu'est-ce qui passe par sa tête, le temps qu'il baisse son panneau, c'est pas ça, hein, il dépose à un endroit son sacoche, le petit sacoche, ferme le panneau et puis il s'en va. Et arrivé à la maison, il dit, ah, Allah, j'ai oublié la recette de la journée, quand il va, la recette, elle a été consommée. D'accord, par d'autres personnes. Imaginez les romans, depuis 8h30 jusqu'à 18h. Mais Wallah, il a azim. C'est incomparable avec une prière que tu as ratée. Parce que cet argent qu'on a gagné, sans le moindre doute, on en a besoin pour tout ce qu'il y a à trait au quotidien. Mais on ne ramène pas cet argent dans le mizan, hasanat, dans la balance. Mais notre fajr, on l'emmène avec nous. Notre dhahr, notre asr, maghrib, isha, notre shuruq. Il y a des fois où on essaie de, enfin, on essaie de comprendre. Il y a des gens qui sont dans la masjid. Enfin, nous, on est à la madrasa, on voit. Après le fajr, ils sont là jusqu'au coucher, jusqu'au lever du soleil. Ils parlent, ils discutent avec les copains, les amis, et puis ils s'en vont. C'est-à-dire que, subhanallah, ils sont présents à un moment magnifique. Si seulement ils considéraient l'importance de ce bienfait, et ils restaient dans la lecture du Coran, le dhikrullah, et ils faisaient deux salats de shuruq avant de rentrer chez eux. Subhanallah, les ni'mas qu'ils obtiennent pour la journée. Et si quelqu'un fait ça tous les jours, imaginez le jour de Qiyamah. Qu'est-ce qu'on trouve dans notre livret de bonnes actions? 10 000, 15 000 ishraq, shuruq accomplis. Subhanallah, comment est-ce que cela va peser lourd dans notre balance? Et comment on va reconnaître que ça, c'était le plus beau cadeau qu'Allah m'a accordé, tawfiq, d'accomplir ses actions. Hada. Point suivant, on en est à 30 minutes. 26, encore 4 minutes, inshallah. Alors ça, c'est un peu plus technique. C'est un petit peu plus complexe. C'est Allah Azza wa Jal envoie des certaines situations dans ce dunya qui nous éloignent ou qui nous font réaliser que les biens de ce monde ne nous apportent pas le réel bonheur. Il y a des fois où on a de l'argent, des fois on perd. Il y a des fois où on profite des biens de ce monde, il y a des fois où on ne profite pas. Il y a des fois où on gagne, il y a des fois où on perd, il y a des fois où on ne gagne rien. Pour que le cœur de l'homme ne s'attache pas au dunya. Et ça, c'est de la clémence d'Allah. Et Allah agit de cette façon avec le croyant, afin que le mu'min ne s'attache pas totalement au dunya. Imaginez que, à chaque fois qu'on lève les mains, on dit, oh Allah, accorde-moi les richesses de cette journée. Et que tous les soirs, on ressent avec 10 000 euros, 15 000 euros. Imaginez, on va dire, les doigts sont magnifiques. Mais, à un moment donné, le cœur finirait par s'attacher au bien de ce monde. La sunnah d'Allah concernant ce dunya, c'est qu'un jour tu l'as, un jour tu ne l'as pas. Un jour tu es satisfait, un jour tu es déçu. Un jour c'est pour toi, un jour c'est pas pour toi. Afin que l'homme ne prenne pas l'habitude de rester attaché et d'avoir pour orbite uniquement ce dunya. Lorsqu'Allah reprend, c'est pour qu'on réalise que ce dunya est éphémère, il n'est pas de nos mains. C'est un peu plus complexe, et savant, il explique avec un peu plus de détails. C'est dans la lignée de l'échelle des valeurs. Il explique que quand une personne ne peut pas avoir quelque chose, il perd, mais il est attristé. Mais il doit réaliser qu'au contraire, si je n'ai pas obtenu la somme que j'attendais ou si à la fin du mois, je n'ai pas eu autant que je souhaitais, ça aussi c'est une clémence d'Allah pour que mon cœur ne s'attache pas totalement au bien de ce monde. Quand une personne perd un être proche, ça c'est un hors sujet, mais ça c'est l'échelle des valeurs. Quelqu'un meurt dans notre famille, on est attristé, mais ça ne doit pas être une calamité. Parce qu'on réalise que la personne qui nous a quittés, cette personne elle est où? Elle n'a pas disparu. Cette personne est retournée auprès d'Allah. Et c'est auprès d'Allah qu'il va retrouver ses prières, ses hajj, ses umrah, ses lectures de Coran. Donc d'une certaine façon, on est satisfait pour cette personne. Imaginez que j'ai 60 ans de mariage. Je suis marié à l'âge de 15 ans et là j'ai... Quel âge? Il faut calculer là. J'ai dit 60 ans de mariage. Hein. Là j'ai 75 ans. Mon épouse meurt. Après 60 ans de vie commune, c'est normal d'être triste. C'est comme si une vie se brise. C'est tout à fait normal. Et le fait d'avoir des larmes, de pleurer et tout, ça prouve qu'on a des sentiments. Et il faut avoir des sentiments. Maintenant, je réalise qu'effectivement, on avait 60 ans de mariage. Mais je me rappelle que depuis le premier jour de mariage, mon épouse, elle n'a jamais raté une salah. Ramadan, elle faisait tous ses ramadans. Et quand elle ratait pour les raisons valables, elle le remplaçait. Je me rappelle qu'on a été, mashallah, 8 fois au hajj. Je me rappelle que durant le mois de Ramadan, elle faisait un khatm al-Qur'an tous les 10 juin, ainsi de suite. Mais réalise, ya akhi, même si ce n'est pas facile dans un premier temps, mais réalisons que mon épouse qui vient de me quitter, là elle est auprès d'Allah, elle est en train de voir, elle est en train de prendre acte, elle ne bénéficie pas encore des récompenses, mais elle réalise l'ampleur des hasanats qu'elle a porté avec elle dans l'au-delà et comment est-ce que cela va lui être profitable. Qu'on réalise qu'au moment où elle est dans sa tombe, Inch'Allah, il y a déjà une lucarne, une fenêtre du Jannah qui est ouverte. Il y a déjà le parfum du Jannah qui arrive dans sa tombe et que comme le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans un hadith que la personne qui est décédée et qui a vu la place qu'Allah lui accorde dans le paradis, cette personne ne souhaiterait pour rien au monde revenir sur ce dunya auprès de ses proches, même si on lui accordait l'intégralité des biens de ce monde. Nous, on souhaiterait que Dada revienne, ou Dadi revienne, ou que mon épouse revienne, mais ces personnes-là, s'ils ont eu les récompenses de la part d'Allah, s'ils ont vu, ils ont eu une vie dans la droiture, aucunement, jamais ils ne souhaiteraient revenir. Ça, ça nous change complètement notre conception des choses, notre conception de la mort. Elle devient différente à partir du moment où tout va transiter autour du iman et autour du ilm, la connaissance religieuse. Notre conception de la perte des biens. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Toutes ces difficultés qui sont évoquées, énoncées dans la sourate Al-Baqarah, à partir du moment où la personne a la foi, il le comprend avec un regard de iman et qu'il fait preuve de patience. Et la patience, ça ne veut pas dire juste supporter les calamités, ne rien dire. C'est donner un sens. Quand j'arrive à donner un sens aux épreuves, je connais comment orienter mon cœur vers Allah. Ça vient de la part d'Allah. Et tout ce qu'Allah a décrété, j'accepte. De un, on gère. Parce que la spiritualité, le iman prend le dessus sur les sentiments. Et c'est une source de récompense. Et là, ça devient une manifestation de la clémence d'Allah Azza wa Jal. On va s'arrêter à la prochaine, Inch'Allah. Ça fait 13 points. On va s'arrêter à la, Inch'Allah. On va continuer la prochaine fois. Il nous reste encore, je pense, 5 ou 6 points. Les points qui nous restent à voir, Inch'Allah, c'est... Il y a un point qui reprend un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure. Toutes les bonnes actions qu'Allah nous accorde, on va dire qu'on ne va pas répéter, c'est manifestation de la clémence d'Allah Azza wa Jal. Et permettez-moi, comme on ne va pas revoir ce point-là, juste une parenthèse. Hein. Vous savez, autant qu'Allah nous a accordé, hein, Ramadan, la nuit du destin, la dernière décade, Ashura, les 6 Shawwal, qu'est-ce qu'il y a encore? Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, avec les récompenses qu'il y a à la première décade de Dhul Hijjah, etc. Toutes ces ni'am, toutes ces portes de tawfiq qu'Allah nous a accordé, tout ce qu'Allah nous donne, l'année passée en jeûne ou telle récompense et ainsi de suite. Le croyant doit faire attention à ne pas détourner ses bienfaits et cautionner ses péchés en se disant qu'en finalité Allah nous a ouvert des portes qu'il n'a pas ouvert à d'autres communautés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne ne doit pas se dire que je reste dans le péché. Là on est dans le mois de, je ne sais même pas où est quel mois islamique, Jamad al-Thani, Rabi al-Thani, al-Akhir, al-Thani al-Akhir, les deux ça marche, barakallah fik. Il y a encore les deux Jamad et il y a Rajab, Sha'ban. Donc j'ai encore 2, 3, 4 mois où je me laisse aller, hein, je peux faire ce que j'ai envie de faire et tout. Ramadan, de toute façon Allah va nous pardonner. Hein, l'imam il cite sur les manabir, les mimbar, les hadiths concernant le pardon d'Allah, que nous demanderons plus jeune qu'est-ce qu'Allah accorde, et ainsi de suite. On fait très attention à ça. Parce que Allah accepte le repentir, le tawbah d'un serviteur à partir du moment où il est sincère. Et la sincérité, ça ne s'invente pas. La sincérité, ça ne s'improvise pas. La sincérité, on ne peut pas bricoler. C'est quoi un cœur sincère qui demande pardon? Parmi les conditions pour que le cœur soit sincère, quand on demande le tawbah, il y a un nadam, les regrets et les remords. À partir du moment où on regrette les péchés, là, le pardon est accepté. S'il n'y a pas de remords, les conditions de ce qu'on appelle le tawbatun nasuha, le repentir sincère, les trois conditions ne sont pas remplies. Maintenant, si je me suis dit que je vais faire plein de bêtises, plein de péchés, je vais aller en boîte, je vais sortir avec des filles, je vais faire telle chose, et le Ramadan, c'est la grande machine à laver, tout va être pardonné. Mais quand je lève mes mains, là, même la nuit du destin, est-ce que je peux regretter les péchés que j'ai pris plaisir à accomplir avec l'intention de demander pardon dans un mois béni. Les remords, les regrets, soit ça sort naturellement, soit il n'y en a pas. Donc les savants disent qu'on fasse très attention. Ne pas se dire non plus qu'après il y a Shawwal, je vais faire laisser Shawwal et ainsi de suite, j'aurai tel, tel machin. Ou alors que je vais Hajj cette année. Je me suis inscrit déjà à Arafat, mes péchés seront pardonnés. Donc autant, hein, on profite, on achète en gros, on importe des contenus de péchés. Et puis on va tout vendre, on va tout éparpiller à Arafat, sera terminé. Allah Rabbul Izzah, c'est ce qu'il y a de le cas. Alimum bidatir soudour. Allah, c'est qu'il y a des poitrines. Et au moment de demander pardon, les larmes ne coulent pas automatiquement. Les larmes coulent à partir du moment où on regrette. Et pour regretter le péché, ben, c'est uniquement si on l'a accompli par erreur, par inadvertance ou par faiblesse de foi. Mais si on prévoit et puis on se dit qu'on va demander pardon, le cœur n'éprouvera pas de remords et qu'Allah nous protège d'avoir un cœur qasi, un cœur qui est dur et d'avoir une conception des choses qui se détourne du iman et qui tend vers les waswasas des shaitans, les insufflations du diable. Qu'Allah Rabbul Izzah nous permet de comprendre ces quelques idées, hein, qu'on essaie de véhiculer, qu'Allah nous pardonne nos manquements et les erreurs qu'il y a pu y avoir, et qu'Allah nous permette de réaliser l'étendue de sa clémence, et qu'Allah remplisse nos cœurs d'amour pour lui, que l'objectif unique, essentiel de notre vie, ce soit la recherche de l'agrément et le contentement d'Allah Azza wa Jalla. Tawfiq illa billah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.